Eh bien, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Soyez les bienvenus pour continuer ce temps ensemble. Et je crois que je vais rebondir sur ce que Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Parce que ça fait un peu partie aussi de ce que j'avais à partager avec vous, de quelle manière nous aimons notre Dieu. Et j'ai une question à nous poser, je vais dire ça comme ça. Alors moi, je me la suis posée, donc maintenant je vais dire à vous poser. Hein? Et je ne vous demande pas de réponse d'ailleurs, parce que ça ne me regarde pas, je dirais. Hein? Pour continuer dans ce sens, donc, quel amour nous avons pour Dieu? C'est cette question que je vous pose, et voilà, parce que je me la suis posée, hein, comme je vous ai dit. À quel prix estimes-tu ce que tu es venu offrir à ton Seigneur et ton Dieu ce matin? Celui que tu dis que tu aimes tant. Voilà. Cette réflexion, elle est tout simplement issue d'une histoire avec le roi David. Alors, on a vu tout à l'heure Pierre. Alors, c'est vachement encourageant avec Pierre parce que c'est un gars qui nous ressemble un peu et qui s'est cassé plein de fois la figure. Donc, voilà, ça me rassure. Et le roi David, c'est un roi selon le cœur de Dieu. Donc ça, c'est quand même des mots qui sont assez forts. Et c'est un roi qui s'est cassé aussi souvent la figure. Donc à quelque part, je me dis, voilà, il fallait que je trouve des trucs, un peu des branches pour me rassurer. Et ça rassure aussi de voir que Dieu choisit des hommes, ben, un peu qui nous ressemblent à quelque part. Et cette histoire, on la trouve dans 1 Chronique 21. Alors, on ne va pas lire toute l'histoire parce que c'est un peu long, mais vous pourrez la reprendre chez vous. 1 Chronique 21. Et alors, c'est un peu compliqué de rentrer directement dans le texte, là où je veux en venir. Donc, je vais essayer de vous résumer un petit peu la situation de son histoire. Voilà, David, tout se passe bien. Il est un peu sur la fin de sa vie. Il a un grand projet de construire le temple et tout ça. Tous les ennemis autour de lui sont. Ouais, sont sous son emprise un peu, je dirais. Voilà, il est tranquille et il décide de recenser le peuple d'Israël. Et alors, sur le coup, je me dis, ouais, en fait, Dieu se met en colère contre lui à cause de ce recensement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi? Et en cherchant un petit peu, je crois que c'est tout simplement parce que David était en train de se dire qu'il comptait plus sur sa toute-puissance avec ses armées et tout ce qu'il y avait que sur la puissance de Dieu et ce Dieu qui lui avait permis justement d'obtenir cette paix d'ailleurs dans laquelle il vivait. Et voilà, donc il se passe un truc de catastrophique en fait, parce que Dieu se met en colère contre lui, mais pas que contre lui, puisque du coup il va impliquer tout le peuple avec lui. Et donc il lui fait, vous relirez, c'est vachement intéressant parce que Dieu lui propose 3 choix comme jugement. Donc j'imagine un peu la responsabilité de David là, de faire le bon choix. 3 ans de, t'imagines, 3 ans de, je sais plus quoi, c'est la famine, je crois, ou 3 jours, ou 3 mois de quelque chose, ou 3 jours de peste. Et David dit voilà, qu'il préfère laisser tout ça entre les mains de Dieu, et il choisit donc ces 3 jours de peste qui vont engendrer 60 000 décès dans le peuple d'Israël. Donc le dénombrement qu'il avait fait, voilà, ça a pris il a pris une certaine claque, je pense, sa toute puissance. Et on va lire à partir du verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad, donc le prophète, d'ordonner à David de monter à l'aire d'Ornan, le Yébousien, et d'y dresser un autel à l'Éternel. Et David s'y rendit comme l'Éternel lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Onan, qui était en train de battre du blé, s'était retourné et avait vu l'ange et ses 4 fils, donc l'ange destructeur, hein, qui était en train d'accomplir. Le jugement de Dieu. Ses 4 fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Et lorsque David arriva auprès de lui, Ornan leva les yeux et le vit. Il sortit de l'aire et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Et David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de ton aire contre sa pleine valeur en argent pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. Ornan répondit à David, prends mon terrain. Et que mon seigneur le roi fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je te donne aussi les bœufs pour l'holocauste, les herses fourniront le bois, et voici le blé pour l'offrande végétale. Je te donne tout cela. Mais le roi David lui déclara, non, je veux te l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent, je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. » Et David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ce terrain. Il bâtit là un autel à l'Éternel, y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée dans son fourreau. Voilà, juste simplement pour situer un petit peu ce qui se passe. David, on lui de le prophète, enfin, Dieu demande à David par l'intermédiaire du prophète de monter, de préparer, d'offrir un holocauste pour justement apaiser la colère de Dieu. Et on voit que donc David ne veut pas de quelque chose qui coûte rien, il veut offrir à Dieu quelque chose qui a de la valeur. Alors cette question, je crois qu'elle est avant tout pour la question que je vous ai posée, à quel prix estimes-tu ce que tu es venu offrir à Dieu? Ça s'adresse, j'allais dire, presque uniquement à des gens qui font partie de la famille de Dieu, forcément. Alors, je ne vais pas dire les autres, vous pouvez y aller. Non, je crois que ce message aussi a quelque chose pour nous tous et peut-être pour toi, si tu ne fais pas justement encore partie de la famille de Dieu. Et je crois que c'est le plus, je dirais presque le plus important, c'est pour ça que je vais commencer par là. Donc David, on a vu un petit peu, il a commis cette faute. Et j'ai l'impression que son histoire un peu de David, où il fait trinquer tout le peuple, ça ressemble étrangement à notre histoire de l'humanité. Où peut-être tu te dis, mais attends, moi j'y suis pour rien dans cette histoire avec Dieu. C'est Adam et Ève qui ont commencé. Ouais, ben là aussi, ceux qui étaient dans le peuple d'Israël, je pense qu'ils ont dû se dire la même chose. Et David le dit. D'ailleurs, il dit, ne mets pas en péril ce peuple. Prends-toi-en si tu veux à quelqu'un, c'est moi qui suis le responsable. Et même, il dit, ma famille, si vous pouvez reprendre ce texte, il est pris à dire, écoute, ce peuple, il a rien à voir dans tout ça, alors que 70 000 hommes vont mourir. Et je crois que pour nous, ça ressemble à la même chose. Hein. Peut-être tu te dis, moi, j'ai rien à voir avec cette histoire du Jardin d'Éden avec Dieu. Cette colère de Dieu sur moi, je ne vois pas pourquoi elle, aujourd'hui, ça me touche. Non, je crois que c'est un peu la même chose. Et cette histoire nous rappelle justement la grandeur, ce qu'on a célébré ce matin, de l'amour de Dieu. Alors David a dû offrir cet holocauste, ce sacrifice, mais je crois que pour nous, c'est un peu différent. Juste pour revenir à cette histoire où peut-être tu te dis que tu n'es pas responsable, Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Et comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Voilà où est-ce que l'humanité en est aujourd'hui. Mais Dieu, pour que cette colère s'arrête de la même manière que David a offert ce sacrifice, et tout cela lorsque le feu est descendu du ciel sur le sacrifice, alors peut-être que je me dis c'est compliqué pour nous, ça ne nous parle pas trop ces histoires de sacrifice, c'est pas trop dans notre culture quand même. Mais la colère de Dieu est descendue aussi sur le Christ. Sur le Christ à la croix. Et je crois que nous pouvons tous nous identifier à cette désobéissance d'Adam et Ève, et que la solution pour le sacrifice aussi, c'est Dieu qui l'a trouvé, parce que nous, on n'avait pas les moyens d'accomplir quoi que ce soit. Et Jésus est venu, il a payé le prix de toutes nos fautes en donnant sa vie sur la croix. Et on l'a évoqué ce matin, et je relirai encore pour toi, qui est peut-être en questionnement, ce verset qui nous a été cité en partie. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour sauver le monde. Celui qui croit au Fils de Dieu n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là, est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jour est encore un jour de grâce, je crois, aujourd'hui. Un jour, si tu es là ce matin, alors peut-être que tu te dis que tu as, voilà, tu n'avais rien à mener. Tu n'avais rien à mener pour Dieu ce matin, mais sache que lui, il avait prévu quelque chose pour toi et il veut tout simplement rétablir cette relation qui a été cassée et gâchée par justement la désobéissance d'un seul homme. Et Dieu a tout prévu pour justement rétablir cette relation avec toi. Et du coup, si cette relation est rétablie, alors on peut se dire, ouais, ben c'est chouette, voilà, je suis sauvé, je suis tranquille, tout va bien se passer. Mais je crois que, comme on l'a évoqué ce matin, il y a une dimension de l'amour qui rentre maintenant en ligne de compte. Et ce n'est pas le tout de dire, oui, j'aime Dieu, et puis de vivre ma vie d'avant ou ma vie décalée avec ce que Dieu demande. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Dieu, en fait, s'il a rétabli un peu ce qu'il avait créé à l'origine en Éden, c'est-à-dire quelque chose de magnifique, pour partager en fait sa gloire et tout son amour avec l'homme. Je ne sais pas si vous êtes allé dans votre jardin en ce moment, mais c'est vrai que ça pousse très vite. Alors, il y a des choses magnifiques, puis il y a des choses moins belles qui poussent, des mauvaises herbes, des ronces et tout ça. Mais moi, je me suis dit, mais au début, ça devait être fabuleux, quoi. Adam et Ève, là-dedans, ils n'avaient même pas arraché les ronces ni rien. Je veux dire, c'était royal, quoi. Il y avait tous les animaux. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, mais je vous laisse imaginer. Et je crois que c'est cela que Dieu veut reconstruire avec l'homme. Et il veut se servir à nouveau de nous, nous donner une nouvelle chance, je dirais, pour pouvoir repartir aussi dans quelque chose de nouveau et pour que nous puissions aussi en même temps, par ce biais-là, célébrer sa gloire. Et on trouve dans un texte dans Ésaïe qui dit « Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde, mes témoins, c'est vous. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés, que j'ai faits pour qu'ils me rendent gloire. » Et dans l'évangile, selon Jean aussi, on trouve une femme qui était en recherche de la manière d'adorer Dieu. Et lorsqu'elle découvre le Christ, l'heure vient, et elle est maintenant, c'est Jésus qui lui dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche des hommes et des femmes et des enfants qu'il adore ainsi. Oui, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc voilà, nous avons donc quelque chose à faire. Alors nous avons, comme je vous l'ai dit, plus de sacrifices pour notre péché. Pas question de faire quoi que ce soit pour se dire « je vais mériter la faveur de Dieu ». Non, je crois que c'est peine perdue, la Bible nous le démontre, Dieu nous le dit. Mais maintenant, nous avons des choses à faire pour glorifier Dieu. Et je crois que c'est tout simplement aussi peut-être la manifestation de notre amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne vivez pas comme s'il n'était pas là à côté de vous. Vous savez les choses qui lui font plaisir. Et je crois que je parle aux plus jeunes, là, plus jeunes couples, là, tout ça, ça marche bien à l'époque. Nous, on a un peu perdu, là. Et pourtant, il ne faudrait pas. Hein, c'est bien de se le rappeler aussi. Mais de relancer un peu tout ça et de se dire, tiens, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon bien-aimé ou à ma bien-aimée? Et je crois que c'est l'occasion et je crois que ça marche de la même manière avec Dieu. Et j'aimerais juste m'arrêter sur trois points que Dieu parle justement de cette valeur, alors de sacrifice. Dans le mot sacrifice, forcément, on n'entend plus la bête qu'on va mettre sur l'autel, mais sacrifice dans le sens de donner quelque chose qui nous coûte. Parce que quelque chose qui nous coûte rien, c'est toujours facile. Hein. Si on m'a refilé un vélo, par exemple, que tu en as besoin d'un, voilà, je te le donne. Par contre, si je me suis acheté un beau vélo et qu'il y en a un qui en a besoin d'un, des fois, je me dis, j'ai un peu du mal à prêter mon joli truc parce qu'il a de la valeur à mes yeux. Et je crois que c'est un peu la même chose. Alors, je crois que dans le Nouveau Testament et sous cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle famille où Dieu veut nous faire entrer, il y a des choses à comprendre. Et le premier sacrifice auquel Dieu prend plaisir, vous savez lequel c'est? C'est le plus facile. La reconnaissance, la louange. Ouais, c'est celui qui nous vient généralement le plus vite à l'esprit. Mais l'obéissance aussi. Mais voilà, moi j'ai mis la louange parce que quand on est au culte et qu'il y a un peu de musique et tout ça, on se dit voilà. Ou si on te pose la question, qu'est-ce que tu es allé faire ce matin? J'étais au culte, je suis allé louer Dieu. Donc c'est quelque chose qui m'est venu. Mais il y a plein de choses qui en découlent. Hein. On verra tout ça. Donc la louange. Et on trouve un texte dans Hébreux 13, verset 15. Offrons donc par Jésus-Christ sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Voilà, c'est peut-être, je me dirais, le truc le plus facile. Parce que des fois, on est là en train de chanter. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, vous, des fois. Mais en fait, on n'est pas là, quoi. Hein? On est venu, on s'est donné bonne conscience. Voilà, on a fait la démarche de venir, c'est déjà bien. Parce que Dieu, de ce fait-là, peut aussi nous parler. À un moment où on a un petit peu, on percute, on a un peu d'attention. Mais des fois, je me dis, est-ce que je suis vraiment là pour Dieu? D'où la question de David. Est-ce que j'offrirai un sacrifice qui ne me coûte rien? Et cette question, je veux dire, il y a des hommes religieux qui l'ont posée à Jésus. Et Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc voilà, je crois que c'est aussi peut-être une parole que Jésus pourrait nous dire. Qu'on est là peut-être un peu léger, alors certes dans sa présence, mais est-ce que je me suis préparé pour ce temps? Donc voilà, je ne veux pas de réponse, c'est pour ça que je vous ai dit, chacun répond voilà, dans son âme et conscience, et c'est entre vous et Dieu, et entre moi et Dieu. Donc je crois que c'est une bonne question à se poser, de quelle manière je me prépare? Lorsque je viens particulièrement dans ce temps avec les frères et sœurs, mais pas que, hein, parce que la louange, ce n'est pas que le dimanche matin, c'est tout au long de nos journées. Il n'y a pas de règles précises, je pense. Hein. Voilà, tu peux louer Dieu dans ta voiture ou je ne sais où. Et je crois que c'est une bonne question de se poser de quelle manière je me suis préparé ce matin pour venir justement présenter quelque chose à ce Dieu que je dis que j'aime. Alors, c'est vrai que c'est peut-être plus facile quand on est là, on se dit, voilà, on a préparé les choses, mais non, je ne crois pas que, comme on l'a dit encore ce matin, Dieu regarde au cœur. Hein. C'est pas de faire de belles choses, et justement, il y a de ce côté-là aussi un piège dans lequel peut-être on peut tomber facilement. Est-ce que je suis venu pour me donner ou donner un spectacle? Ou est-ce que je suis venu plutôt pour accompagner mes frères et sœurs dans ce temps de louange et ensemble pouvoir célébrer notre Dieu. Donc voilà, c'est un premier point au niveau de la louange. Et puis il y en a un deuxième, je crois, un danger qui nous guette depuis ces derniers temps. Je ne sais pas si ça vous a interpellé tout ça, mais depuis le Covid, hein, en fait, c'est le danger de vivre le culte sur Internet. Je pense que c'est un véritable danger. Alors, c'est une super technologie et une super chose. Et je pense à ceux qui sont sur Zoom, que j'ai oublié de saluer, mais j'en profite, voilà. Alors ça, c'est super pour quand tu es bloqué à quelque part, quand tu es même dans ta voiture. Moi, il m'est arrivé en rentrant de Paris, voilà, on avait le culte en direct et on pouvait vivre un temps de culte. Mais forcément, c'est un piège. C'est un piège parce que moi, j'entends un peu ce qui se dit autour, comme chacun d'entre nous. Hein. Et du coup, il y en a qui se disent, ouais, je mets le culte comme ça, je peux cuisiner en même temps, je peux faire ceci, je peux faire cela. Alors, quand on est obligé, je dis pourquoi pas. Hein. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas le faire. Hein. Mais juste, encore une fois, c'est cette question que David s'est posée. Je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Parce que je crois que le danger, en fait, par ce biais-là, c'est de nous entraîner dans une oisiveté. Alors, c'est super confortable, hein. Peut-être un peu trop des fois, mais voilà. Par contre, on y apprend de super belles choses aussi, parce que ça permet de... Donc, il y a toujours les deux côtés à ces belles choses. Ça permet de vivre des cultes avec d'autres frères et sœurs, de voir des choses qui se font ailleurs que chez nous. Et je trouve que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit. Et c'est vraiment aussi quelque chose d'encourageant. Mais encore une fois, attention comment je pratique ce genre de choses. Et puis, il y a aussi, toujours pour la louange, particulièrement des choses qui peuvent être difficiles. Je vous ai pris un, je ne sais pas où j'ai mis là, un chant. Ah, mais il est là. Voilà. Un chant qu'on prend des fois et qu'on chante peut-être un peu légèrement. Je vais juste vous lire quelques paroles. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Alors, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Ça aussi, je crois que c'est, des fois, on est tellement dans nos circonstances que, à quelque part, je dirais, on fait presque payer à Dieu, en fait, ce qui se passe dans nos vies. Et juste, je vous dis ça dans ce sens-là pour qu'on puisse être encouragé à... Alors forcément, on chante quand béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. Ouais, c'est compliqué de chanter un tel chant des fois. Alors peut-être qu'on, voilà, tout simplement, on n'est pas obligé de le chanter, mais on peut en profiter pour se recentrer sur Dieu. Et je vous dis ça aussi. Je dirais tous, enfin, par rapport à un sujet de prière que vous avez dans votre liste de prières, qui est en particulier pour cette jeune femme qui s'appelle Laetitia, que voilà, que vous connaissez pas, hein, mais qui est quelqu'un de proche de nous et qui est atteinte d'un cancer, donc et voilà, très compliqué, il n'y a pas trop d'issue à vue humaine, donc je vous dis ça simplement pour que vous puissiez continuer à prier dans ce sens-là, pour elle, pour le salut de son âme, bien sûr, et pour toute sa famille, et voilà, pour que Dieu puisse intervenir. Et toutes ces circonstances de vie qui sont autour de ma famille, voilà, nous impactent aussi, parce qu'il y a un peu des dommages collatéraux. Et lorsque... Ben forcément, j'ai vu mon nom sur le planning, et les circonstances étant, je me disais, ben c'est aussi compliqué de gérer ça. Et Et juste pour finir avec ça, je me disais, ben, ouais, j'aurais pu demander à Ellie ou à quelqu'un de prendre ma place, mais c'est exactement ce que, pardon, ce que je partageais avec vous. Qu'est-ce qui m'en coûte? Voilà, j'arrêterai là. Le sacrifice suivant, c'est la bienfaisance. Donc Jésus a dit qu'il y avait deux grands commandements. Il a résumé la loi en deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Donc voilà. Et le second, il dit, il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on trouve aussi dans cette lettre aux Hébreux, n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, il n'est pas forcément question au niveau de la bienfaisance, de donner de l'argent, bien que ça puisse passer par là. Hein. Et du coup, le mot sacrifice peut-être prend tout son sens lorsqu'on commence à toucher à notre portefeuille, je dirais. Hein. Là, on comprend mieux. D'ailleurs, hein, ça marche bien. L'État a compris ça aussi. Donc, ça nous mobilise. Et donc Jésus, Jésus a aussi pris dans Marc 12, verset 41, il était assis en face le tronc, il regardait comment la foule, chacun mettait sa petite pièce, sa contribution au temple. Et il a fait remarquer justement au niveau de l'argent que cette veuve qui avait mis que deux petites pièces avait donné beaucoup plus que ceux qui avaient donné une bonne partie, enfin une grosse somme, mais qui en... à comparer à ce qu'ils avaient gardé, en fait, ils n'avaient pas donné grand-chose. Mais ce n'est pas sur cet exemple-là que je veux m'arrêter. Il y a un autre exemple aussi qu'on trouve dans l'Ancien Testament où il est question de Élie. Et donc, Dieu parle à Élie, il lui dit « Mets-toi en route, va à Sarepta dans le pays de Sidon, installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Et comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi un petit morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » Donc voilà une circonstance, un truc complètement hallucinant encore. Je me dis, mais est-ce que Dieu, il n'aurait pas pu choisir quelqu'un qui avait les moyens dans ce pays ? Il va trouver une femme et en plus une veuve. Je veux dire, voilà, le truc improbable. Et je crois que je retiendrai juste de cette histoire que Dieu a un plan pour chacun de nous. Que tu sois engagé dans son service ou que tu sois monsieur ou madame lambda, il a ordonné à cette femme de nourrir le prophète. En fait, le texte nous dit que Dieu lui avait ordonné. Donc, je me dis, elle n'était peut-être pas obligée non plus d'obéir. Hein ? Et elle l'a fait. Alors, Élie lui demande juste un verre d'eau. Et elle, de bon cœur, elle va pour lui porter ce verre d'eau. Elle n'était même pas revenue avec son verre d'eau que Élie met la barre un peu plus haut. Si vous avez entendu ce texte, Élie lui demande de lui apporter un petit morceau de pain. Et la pauvre femme, comme on l'a lu dans cette histoire, elle n'a plus rien en fait. Elle n'a plus qu'un peu de farine, un peu d'huile. Elle est, je pense, voilà, le moral plus bas que terre. Et peut-être que ça te ressemble un peu aussi. Hein. Tu es peut-être en difficulté dans ta vie. Les choses sont compliquées. Mais je crois qu'il est une chose, c'est que cette petite étincelle de foi qui va s'allumer dans le cœur de cette femme, et parce que Dieu honore la foi, alors on voit à la fin du texte que jusqu'à la fin de ce qui se passait, cette terrible sécheresse dans le pays, la farine et l'huile ne tariront pas. Alors forcément, pour nous, ça a une symbolique, hein, la farine et l'huile, le Saint-Esprit et tous les bienfaits que la nourriture essentielle, je crois que Dieu veut nous les donner aussi. Mais je crois que la petite injonction qu'il faut retenir, c'est « prépare-moi d'abord ». Donc encore une fois, j'en reviens à cette question de David. Qu'est-ce qui m'en coûte ? À quel prix ? Où est-ce que je mets le curseur dans ce que j'ai préparé pour Dieu ou dans ce que je lui réserve aussi dans ma vie. Et c'est une vraie question pour moi, mais je crois que c'est une vraie question pour chacun de nous. Donc, si on met Dieu en priorité, si on est prêt à lui donner la première place et les meilleures choses de nos vies, alors cette bénédiction va s'étendre, et pas qu'à nous, hein, elle va s'étendre aussi à toute sa famille, à Élie, à tous ceux qui l'entourent. Et le texte s'arrête là, mais j'ose imaginer que si elle avait ça avec Élie, si ses voisins étaient aussi peut-être un peu dans la panade, et ben, elle a dû leur donner un coup de main. Ça, c'est moi qui le dis, hein, c'est pas le texte. Vous en faites ce que vous voulez. Mais je crois que j'ose imaginer cela. Donc voilà, dans la mesure où je mets Dieu à la première place, je crois que même si tu te dis, ouais, mais j'ai pas grand-chose, j'ai. Non, je crois que si on a confiance en Dieu, il peut multiplier tout ça et ses bénédictions et ses bontés ne sont pas épuisées. On le dit souvent, mais je crois que c'est l'occasion peut-être de l'expérimenter. Et puis, il y a encore un autre sacrifice qu'on peut faire à Dieu, c'est le sacrifice de nos corps. Je vous invite, c'est Paul qui nous y invite justement dans sa lettre aux Romains. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, votre pouvoir de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, quand on parle de corps, et peut-être encore plus dans l'Église qu'ailleurs, forcément, on parle de nos sentiments, de la sexualité, de tous ces trucs-là, ces choses, encore une fois, magnifiques, que Dieu a prévu entre l'homme et la femme. Mais voilà, je crois que autant ça peut être une chose extraordinaire, autant ça peut être aussi tourné en abomination pour Dieu. C'est ce que dit Paul, ne vous laissez pas modeler par le monde. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je crois que faisons attention, et même dans les églises, le mariage est une institution divine et nous sommes tenus de le garder à l'honneur. Mais là aussi, je crois qu'attention de ne pas en faire un cheval de bataille. Demandons à Dieu de nous donner la sagesse pour accompagner ceux qui ont besoin de l'être dans ce domaine. Il y a eu tellement de paroles maladroites, voire blessantes, décourageantes, qui ont été dites, forcément si c'est ces paroles-là, sans l'amour du Christ. Nous sommes parfois tellement impatients pour les autres qui changent de comportement que nous oublions que Dieu a dû et doit avoir peut-être encore beaucoup de patience envers nous dans d'autres domaines de nos vies qui ne sont pas à sa gloire. Donc je crois que c'est offrir nos corps comme Paul nous y invite, oui, le mariage, forcément. Après, je dirais, voilà, chacun chemine à sa vitesse et que nous puissions nous laisser, comme Paul le dit si bien, transformer le renouvellement de notre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est juste, ce qui est parfait. Il y a aussi au niveau du corps, les attitudes, notre comportement, nos réactions peuvent être parfois violentes en parole ou même jusqu'en acte. Et oui, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on a vu, Pierre, il a même coupé une oreille. Hein. Ça vous dit quelque chose? Mais voilà, je crois que c'est important de se rappeler ça, que je suis aussi le reflet de Dieu pour notre société, de quelle manière je me comporte avec mes voisins, mes contemporains. Que Dieu nous aide aussi dans ce domaine à être renouvelés et pourquoi pas transformés. Et je crois que c'est pour cela que Dieu nous a donné son esprit pour justement pouvoir y arriver, parce que je crois que c'est un peu peine perdue si on essaie de le faire par nous-mêmes. Et Paul dit encore une fois, c'est pourquoi je te rappelle, il parle à Timothée, 1 Timothée 1, verset 6, « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. » En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà, que toute la gloire lui revienne dans chacune de nos vies et aussi dans son Église. Amen.